France Culture. Et maintenant, le 7h-9h. Quentin l'a fait.
Un ouvrage qui paraîtra au début du mois d'octobre. Il s'intitule « Qui sauvera la planète ?» en question ambitieuse. Il paraîtra aux éditions Actes Sud. Son auteur, Nathanaël Vallenhorst, chercheur en sciences de l'environnement et en sciences politiques, enseignant à l'Université catholique de l'Ouest. Dans cet ouvrage riche, clair dans son ambition et son contenu, il décrypte les récits politiques du temps présent, récits qui profitent de l'échec démocratique et de l'échec écologique, le récit technophile de la Silicon Valley, le récit dirigiste chinois, le récit pervers, celui qui joue avec les médias et la science, le récit alternatif aussi. Nathanaël Vallenhorst, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi s'intéresser à ces récits justement, et qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur notre façon de percevoir le changement climatique et au-delà, l'engagement climatique ?
Un grand merci pour votre invitation. Donc effectivement, il me semblait intéressant de pouvoir essayer d'identifier, circonscrire les différents récits dans lesquels on est pris comme un tourbillon. C'est-à-dire on peut croiser un tweet climato-sceptique ou de Donald Trump qui nous dit « il neige à Washington ». On peut lire sur les réseaux sociaux une personne, régulièrement c'est une mère de famille qui est passée au zéro déchet. Voilà. Et puis d'un autre côté, on peut voir une personne qui nous explique qu'on va avoir des super capteurs de CO2 et que finalement tout ça n'est pas si grave, etc. Et donc on est pris dans un tourbillon et souvent on a du mal à démêler le vrai du faux. Voilà. Et puis donc là on est en cette période de rentrée, on a éprouvé, expérimenté de façon sensible quelque chose de particulier en France et dans plein de régions du monde, avec un été particulièrement chaud, particulièrement sec, avec des incendies, etc. On a eu une expérience sensible, et puis on peut, à partir de cette expérience sensible, finalement, imaginer ce à quoi pourrait ressembler le futur. Et donc on pourrait se dire, bon ben en 2050, on aurait une chance sur deux à peu près, c'est ce qu'on entend, hein, de vivre des étés comme cela, et se dire, ben, finalement, un été comme ça, ça passe, voilà, tout simplement. Or, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On a besoin de la médiation scientifique et puis on a besoin d'une clarification, autant à partir des données scientifiques, géoscientifiques, et à partir aussi du type de futur politique qui se dessine à travers les différents ingrédients, on va dire, du temps présent.
Quel grand récit, selon vous, sort gagnant ou du moins renforcé de cet été où l'on a éprouvé, vous l'avez dit, les choses de manière sensible ? Est-ce que c'est le discours, disons, libéral ? Est-ce que c'est le récit un peu plus autoritaire qui expliquerait qu'il faudrait plus de contraintes pour agir et forcer les gouvernements à agir ?
Alors aujourd'hui, je ne saurais pas dire qui est le grand gagnant. Ces dernières années ou ces dernières décennies, de toute évidence, le grand gagnant a été le récit mensonger. Voilà, où un doute a été distillé dans nos esprits. Est-ce que c'est vraiment si grave, etc. Jusqu'à pas si longtemps, on a eu personne comme Claude Allègre qui a fait beaucoup de bruit, qui a été par ailleurs ministre de l'Éducation nationale. On a eu d'autres ministres de l'Éducation nationale qui sont de fervents, alors pas nécessairement complètement climato-sceptiques, mais des technosolutionnistes vraiment, franchement, qui est une autre forme, hein, à certains égards du climato-scepticisme. On entend parfois, par exemple, en réaction à l'été, bah oui, il a fait chaud, mais on a déjà connu des étés chauds, finalement. Il a fait sec, mais on a déjà connu pire, il y a quelques décennies, etc.
Comment vous expliquez le succès, au fond, de ce discours mensonger, alors qu'au fond, on l'a dit, le changement climatique est de plus en plus visible, de plus en plus sensible, et pourtant, ce discours mensonger continue de progresser?
Pour moi, il agit comme une pieuvre avec des tentacules. Et le mode même de production du savoir scientifique a généré un trouble, en fait. Et puis, dans les différents... Par exemple, dans les différents rapports du GIEC, jusqu'à... Alors maintenant, on a eu les derniers rapports qui nous disent qu'il y a un réchauffement climatique de nature anthropique qui est sûr à 100%, si on devait à un moment donner un chiffre réducteur. Mais jusqu'à pas si longtemps, c'était 95, avant c'était 90. Et donc, ces 5 ou 10 petits pourcents, on pourrait dire, mais finalement, on n'est pas complètement sûr à 5% ou à 10%. C'est-à-dire, il y a des façons, à un moment donné, quand on n'a pas compris le mode même de production des savoirs scientifiques. Et en France, on doit dire qu'on n'est pas aidé parce que de tous les pays de l'OCDE, il y a une enquête TIMSS qui est parue en 2019. La France est avant-dernière en mathématiques et culture scientifique pour les élèves en CM1. Et c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde nous bat. Voilà, des nations qu'on a l'habitude de regarder de haut, la Hongrie, la Pologne, sont devant nous en mathématiques et en culture scientifique. On arrive à battre uniquement les Chiliens. Bon, voilà. Donc, de fait, ça, c'est un tentacule. Puis, un tentacule aussi très, très, très fort, ça a été, et c'est encore, bien sûr, un lobbying vraiment particulièrement conséquent de la part des industries pétrochimiques, etc.
Un autre récit qui pourrait faire son lit, enfin, qui pourrait faire le lit de cette situation, du moins, c'est le récit autoritaire, le récit qui imposerait aux citoyens de changer, de transformer leur manière de consommer, de produire, d'être au monde. Est-ce que ce récit-là vous semble de plus en plus vivant et fort, en France notamment?
Alors, de fait, il nous revient de l'étudier avec attention et d'y être particulièrement attentif. Moi, j'entends régulièrement de la part d'étudiants, mais monsieur, quand on parle de la situation bioclimatique, mais monsieur, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une petite dictature verte à la chinoise? Voilà, de fait, on voit qu'il se passe quelque chose en Chine, une nation qui à la fois se positionne du point de vue du durable, etc., au niveau économique, et puis qui ambitionne de refonder une nouvelle civilisation qui serait une civilisation écologique, pour la Chine, bien sûr, mais qui aurait une visée, une portée politique plus globale, voilà, comme un modèle pour traverser les sombres temps de l'Anthropocène. Mmh. Bon, alors, ça, c'est une question délicate. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait renoncer à notre liberté d'action politique au profit de quelques-uns, supposément éclairés, qui prendraient en charge notre destin et puis qui garantiraient la pérennité de l'aventure humaine sur la Terre, quoi. Bon, alors, quand on regarde de près, c'est assez intéressant parce que, je peux dire d'emblée, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à prendre du point de vue, comme ça, d'un abandon de nos libertés publiques et puis de la part d'un autoritarisme. Et quand on regarde les choses de façon un petit peu précise sur ce qui se passe en Chine et des situations, j'ai deux exemples en tête, par exemple. Un premier exemple, c'est donc un régime autoritaire, ça suppose une mainmise particulièrement forte sur les différents rouages, les différentes personnes qui travaillent au service de ce régime-là et qui ont un ensemble de comptes rendus à faire en permanence. Et puis il y a eu une situation, par exemple, où de fait la Chine souhaite limiter son empreinte environnementale sur certains secteurs très précis. Au moment de la saison des battages, c'est-à-dire de la moisson, dans une province en particulier, les autorités locales ont décidé de ne pas utiliser de moissonneuse-batteuse pour que les particules, mais qui sont des particules du blé, ne viennent pas fausser les chiffres de la captation de la constitution chimique de l'atmosphère et puis générer des mauvais chiffres qui seraient ensuite transmis aux autorités du parti. Et donc, du coup, les moissonneuses batteuses ont été interdites et le blé a pourri sur place. Donc, on voit là les travers à travers un tout petit exemple. Et à contrario, on voit dans d'autres situations que sont les toutes petites marges de manœuvre citoyennes investies par les citoyens qui ont pu faire bouger un tout petit peu le régime sur l'une ou l'autre chose au service d'une meilleure durabilité.
Mais pour me faire l'avocat des autocrates, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une dictature écologique un peu plus éclairée? Je voudrais vous citer Denis Meadow, qui est un physicien américain bien connu et qui est loin d'être autocrate. La montée de l'autoritarisme est inévitable. Je suis personnellement très content de vivre dans une démocratie, mais nous devons admettre que les démocraties ne résolvent pas les problèmes existentiels de notre temps. Dérèglement climatique, réduction des réserves énergétiques, érosion des sols, écart croissant entre riches et pauvres. Fin de citation. C'est vrai que ce constat, il est flagrant quand même, notre incapacité collective en démocratie à résoudre concrètement certains des problèmes de notre temps.
Alors, merci pour cette question. Donc, je pense qu'il nous revient de penser autrement la démocratie et finalement libérer d'une forme de prise d'otage économique par des acteurs économiques qui ont organisé, orienté les politiques de façon particulièrement néolibérale. Et donc aujourd'hui, on a une conception de la démocratie qui est de fait tenue en otage et où le législateur finalement travaille très peu. Et donc il me semble qu'on a besoin de penser la démocratie organisée, autour des limites que sont nos propres limites, les limites des individus, des groupes, des entreprises, etc., encastrées au sein des limites que sont les limites du système Terre, les limites planétaires. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Pour l'instant, on ne pense pas la démocratie à partir de la limite.
Et, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants quand ils viennent vers vous et qu'ils vous expliquent qu'une dictature verte serait peut-être la solution la plus efficace au fond? Qu'est-ce que vous leur opposez comme argument d'abord? Et comment vous leur expliquez que la démocratie, selon vous, est le chemin à prendre?
Alors, moi je pense que un pouvoir fort, lorsqu'il est en place, il ne poursuit pas d'autre fin que sa propre pérennité. Et on le voit de façon particulièrement nette avec le Parti communiste chinois, la façon dont finalement une grande partie de son activité, et toute son activité serait un peu peut-être exagérée, mais une très grande partie de son activité, c'est de rester en place et de ne pas être éjecté. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on n'est pas centré sur le devenir de l'aventure humaine au sein de l'ensemble de la Terre, quoi. Et on est un pouvoir fort, il est vraiment centré sur lui-même et il ne peut pas mécaniquement, matériellement, être centré sur autre chose que sa propre nation, autre chose que le propre périmètre mmh. sur lequel il exerce sa force.
Alors Emmanuel Macron, le président de la République, a parlé il y a quelques jours de fin de l'insouciance. Je vous vois plutôt dubitatif. Est-ce que c'est un nouveau récit? Est-ce qu'il s'inscrit justement dans un de ces nouveaux récits que vous décrivez dans votre livre?
Alors, effectivement, et puis on a beaucoup entendu parler de sobriété aussi, en lien avec cette fin de l'insouciance. Alors, à la fois... C'est intéressant d'entendre le terme sobriété prononcé par des responsables politiques et on a l'impression que ça vient comme légitimer finalement des décennies de travaux scientifiques avec toujours cette même souffrance de la part des scientifiques de constater combien leurs travaux n'étaient pas relayés, traduits au niveau politique. Donc le terme sobriété à certains égards peut le traduire. Et en même temps, quand on regarde la façon dont le terme, et je m'appuie là sur un collègue, Bruno Villalba, sur la façon dont le terme est mobilisé, il n'est pas défini, le terme de sobriété. On comprend que ça n'est pas la rigueur, on comprend que ça n'est pas la décroissance, il est borné d'une certaine façon, et on a l'impression qu'il est très contextuel, c'est-à-dire qu'il est en lien avec une coupure de gaz qui a lieu en ce moment en Europe. On peut imaginer que la sobriété ne soit qu'un moment qui fasse place ensuite à nouveau à une forme d'abondance qui serait générée par les nouveaux réacteurs nucléaires. Et donc, pour l'instant, je suis un petit peu, oui, d'une certaine façon dubitatif ou troublé. Et puis surtout, pour l'instant, on ne perçoit que peu, et peut-être que ça va venir, mais de traduction à partir d'un travail du législateur qui laisse pas la possibilité aux uns et aux autres d'être plus ou moins sobres, etc., mais à un moment donné qui va positionner dans du dur, dans la loi, le rapport de chacun à la consommation. Et le problème aussi avec cette sobriété, on entend parler de sobriété énergétique. L'enjeu n'est pas d'abord que nous changions notre attitude dans la consommation énergétique, mais c'est une sobriété globale, complète, générale de la consommation. Voilà. Et puis je constate que c'est aussi enchevêtré avec une autre problématique qui est celle du pouvoir d'achat. C'est-à-dire aujourd'hui, aucun parti politique ne nous dit... Mais en fait, le pouvoir d'achat, il faut pas l'augmenter, il faut le diminuer pour pouvoir investir dans des infrastructures, et c'est-à-dire de capter les flux financiers pour non pas les consommer, les griller dans de la consommation, mais les positionner dans du dur qui va permettre justement à la vie en société de continuer d'être possible. Pour tous et pour chacun.
Et on en revient justement sur peut-être notre incapacité collective à prendre des décisions qui iraient dans le sens d'un combat radical contre le changement climatique. J'ai une mesure en tête, celle de la remise carburant qui passe à 30 centimes. Et on voit bien là l'impossibilité de prendre des mesures très très impopulaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est ça au fond le récit du gouvernement actuellement, c'est de tenir ensemble des contraires sans avancer véritablement dans cette lutte. Je reprends votre expression, hein, tenir ensemble des contraires, qui est l'un des récits que vous décrivez dans votre ouvrage.
Sur la question du carburant, là, oui, de fait, ça pose tout un tas de questions, de problématiques, etc. Est-ce que la remise doit avoir lieu autant pour un espèce d'immense 4x4, un pick-up, etc., que pour une voiture beaucoup plus modeste qui est absolument indispensable pour se rendre sur son lieu de travail? Bon, ça, c'est une vraie question. Ce que je constate les années précédentes dans notre gouvernement, quand on regarde ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, une initiative exceptionnelle, enfin, j'ai envie de dire, tout le monde ne peut qu'applaudir des deux mains de voir une démocratie réelle, directe, mobilisant les citoyens, etc. Et puis à partir des données scientifiques, des citoyens tirés au sort qui, de fait, quand on lit leurs propositions, on est absolument époustouflé de constater combien les Français ne sont pas des imbéciles et combien...
Les citoyens qui se sont formés, qui ont travaillé,
lorsqu'on
qui ont discuté.
Les met en rapport avec les savoirs scientifiques tels qu'ils sont débattus en ce moment dans les plus grandes revues académiques, mais de fait les comprennent et puis comprennent les traductions sociopolitiques. Bon. Et ben, quand on regarde la façon dont ça s'est fini, à un moment donné, il y a eu un tour de passe-passe politique. C'est la faute à LR, c'est la faute à etc. Et puis, finalement, la proposition qui était la proposition phare et de mettre vraiment dans du dur dans l'article 1 de la Constitution, la préservation des conditions bioclimatiques. Il y a eu à un moment donné, on peut pas, le Sénat est contre, etc. Et le projet a été entériné. Et donc, derrière, on se demande si finalement c'était pas un jeu de dépolitisation des questions environnementales, là où au contraire on s'attendait plutôt à une franche politisation des questions environnementales, qui est l'enjeu majeur du contexte actuel.
Quel est le récit au fond qui a vos faveurs, si vous pouvez l'exprimer, et quel est le récit en tout cas qui vous semble être le plus efficace du point de vue du combat écologique d'une part et de la justice sociale d'autre part?
Donc, de fait, moi, mes critères pour juger et analyser les récits, c'était deux critères. Ça a été les faits scientifiques et les savoirs scientifiques, d'une part. Et puis, d'autre part, de fait, une préservation de la démocratie. Et donc, quand on mobilise ces deux critères-là, il y a un récit qui émerge de toutes parts, dont, de fait, j'espère, et avec beaucoup de personnes, qui va pouvoir se fédérer, se tisser et puis gagner la bataille. C'est un récit, alors, que j'appelle alternatif. On aurait pu le nommer de mille et une manières. Il émerge de la part d'académiques, de citoyens, de politiques. De fait, on a des responsables politiques particulièrement informés, qui sont des francs et réels démocrate, mais d'une démocratie, j'ai envie de dire, radicale, mais à distance de tout extrême, au sein de laquelle la violence ne soit pas un moyen légitime de l'action.
Il rassemble des gens extrêmement différents.
Il rassemble des gens extrêmement différents, et j'ai même envie de dire, le pape François, par exemple, de fait, quand on lit ces différents textes, est un fervent animateur d'un récit radical et résolument démocratique, et puis éclairé à l'aide des savoirs scientifiques. Et donc, de fait, il y a nombreux. Et alors, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une politisation des questions environnementales, c'est-à-dire de positionner à un moment donné dans la loi et dans la Constitution ce qui va nous permettre de garantir la vie en société.
Et ce récit alternatif, justement, il fait le lien avec notre deuxième invité qui nous rejoint dès maintenant, Clara Breteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie, enseignante à l'université Paris 8, et vous faites paraître chez Actes Sud les vies autonomes, une enquête poétique, et vous êtes intéressé sur le terrain à une autre forme, de récit, les récits poétiques que produisent et forment ceux qui décident, on en donnera une définition, de mener une vie autonome, les récits de lieux de vie, c'est comme ça que vous les appelez. Qu'est-ce que c'est ces récits de lieux de vie?
Alors ces récits, je les ai faits dans le cadre d'une enquête sur les lieux de vie autonomes, du point de vue de leur pouvoir poétique, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une enquête sur tous ces gens qui essaient de bifurquer, qui cherchent à réinscrire leurs besoins vitaux dans le monde vivant, qui essaient de produire eux-mêmes leur nourriture, leur énergie, leur logement. Mais ces modes de vie qu'on peut appeler autonomes ou en quête d'autonomie, j'ai essayé de les aborder sous un angle un peu particulier, qui n'est pas un angle qu'on pourrait dire classique, par exemple sociologique ou technique, puisque j'essaie de voir ce que ces façons de vivre ouvrent comme signe, comme image, comme matière poétique, c'est-à-dire comment elles nous transforment de manière intime, de manière sensible, et comment elles transforment notamment nos façons de faire signe et sens du monde.
Où est-ce qu'on trouve ces récits poétiques, ces éléments de poésie justement dans ces lieux de vie autonomes?
Alors ça peut être des images poétiques, par exemple des dortoirs pour plantes, des fenêtres télé, des halls d'entrée jardin, des pierres qui chantent, des poules couveuses de livres. C'est aussi une façon des habitats qui se remettent à faire signe, avec des signes vivants qui prolifèrent et des habitants qui apprennent à déchiffrer ces signes parce qu'ils sont dans une optique régénératrice, réparatrice, parce que s'ils le mobilisent, ils les mobilisent ces signes pour l'autonomie, pour la construction, le maraîchage, l'énergie. Et puis des habitants qui adoptent eux-mêmes un langage de signes. Par exemple, qui dissémine des signes épouvantails pour faire un partage avec les animaux sur leur culture, ou au contraire, qui apprennent à parler une langue de signes pour attirer et pas repousser les animaux. Et puis enfin, une utilisation de signes fabulatrices. Et on a par exemple Gilles à Laurel, un habitant qui, pour mémoriser un coin à champignons dans la forêt, a transformé chaque être vivant et signe rencontré sur le chemin en un conte rempli de personnages.
En quelques mots, et avant de vous faire dialoguer ensemble à 8h15, est-ce que ça résonne avec ce récit alternatif dont parle Nathanaël Vallenhorst?
Alors en fait, ces lieux de vie autonomes et les cultures vernaculaires, organiques, poétiques qu'ils génèrent, je pense qu'ils défendent un peu la portée et la valeur de l'autonomie, que je défends comme une capacité à produire son énergie, sa nourriture, son logement, en dehors des services encadrés par l'État et de l'économie de marché, en réinscrivant ses besoins quotidiens dans le monde vivant. Et du coup, eux, ce qui se dégage de ça, c'est vraiment l'intérêt de mettre en place des politiques de l'autonomie aux différentes échelles du local, aux échelles de la maison, aux échelles, à l'échelle du village, à l'échelle de la biorégion, qui est à mon sens l'une des grandes entités politiques de demain.
Eh bien, on en reparle à 8h15.
France Culture. Et maintenant, le 7h-9h. Quentin l'a fait.
Et retour justement sur ces récits avec Nathanaël Vallenhorst qui fait paraître chez Actes Sud un essai intitulé « Qui sauvera la planète ?» ainsi que Clara Breteau qui publie chez Actes Sud « Les vies autonomes, une enquête poétique ». Alors, ce qui vous lie l'un et l'autre, vous vous intéressez aux façons de raconter ce qui se passe, soit à des échelles macro, très larges, soit au niveau local, parfois même individuel. Et vous faites les récits de ces combats climatiques. Clara Breteau, vous avez visité, parcouru, rencontré 23 lieux de vie autonome dans votre enquête. Est-ce que peut-être vous pourriez commencer par nous en décrire un qui vous a marqué, qui vous a touché particulièrement pour illustrer ce qu'est un mode de vie autonome, un lieu autonome?
Un lieu particulièrement emblématique, c'est la forêt de Sylvie Barbe à Cantoyourt dans les Cévennes. Mmh. En fait, ce que j'ai observé dans les lieux autonomes, c'est que ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils vont concentrer les énergies et les matières, ils enchevêtrent les espaces et les objets. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, ils mélangent les corps des humains et des non-humains, des habitants et des habitats, mais ils mélangent aussi les imaginaires attachés à ces corps, les signes attachés à ces corps. Et ça donne tout un ensemble de tissages poétiques à travers le quotidien. Et ça, c'est très manifeste chez Sylvie à Cantoyourt, qui vit dans ce que j'ai appelé une forêt brodée. En fait, elle était couturière à l'origine. Elle est passée de la couture de vêtements à la couture de patchwork, à la couture de yourte, à la couture de la forêt tout entière, puisque elle a envahi sa forêt d'une sorte de lierre d'étoffe. Donc, c'est des guirlandes de tissus, des ribambelles de fanions, des installations textiles, des fils de laine. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle a une pratique qui vraiment coud ensemble les humains et les non-humains, l'habitant et les habitats, qui les inclut dans un même tissu physique, métabolique, mais aussi un tissu sensible, imaginaire, qui en vient à faire monde, à faire une culture propre. Et elle a eu cette phrase marquante, Sylvie, qu'aurait très bien pu faire le titre de l'ouvrage peut-être, c'est « Ma culture, c'est ma forêt ».
Ces gens que vous avez rencontrés, dont vous parlez dans votre ouvrage, au fond, quel récit, quel discours ils portent sur eux-mêmes et sur leur démarche? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être, voilà, de se couper du monde, de ne plus pouvoir vivre dans celui qu'on connaît? Ou est-ce qu'au fond, c'est tout autre? C'est une démarche qui n'est pas forcément politique, plus individuelle, plus intime aussi?
Alors, pour la première génération de retour à la Terre qu'on a dans les années 70, on parlait de retour au désert aussi en même temps que retour à la Terre. Là, il n'y a pas du tout cette volonté de coupure d'isolement radical. On est dans des lieux, la plupart des lieux qui sont ouverts, qui se positionnent un peu comme des lieux laboratoires, des lieux tribunes.
Mais vous dans dites lesquels, dans l'ouvrage, d'ailleurs, c'est pas des sécessionnistes, c'est pas des gens qui se coupent entièrement du monde, mais ils tissent d'autres liens, et notamment des liens autour d'eux au niveau local.
Oui, mais en fait, la façon dont ils veulent faire exemple, c'est vraiment de manière très pragmatique. Ils ont une optique de revenir au local, revenir au corps du lieu, avoir vraiment une approche de l'autonomie concrète, métabolique. Ils parlent beaucoup de comment on se chauffe, comment on se nourrit, des techniques, des low-tech. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils reviennent un peu au sens étymologique du mot autonomie. C'est un sens un peu méconnu, mais en fait, donc auto, c'est soi-même, et le nomos, chez les Grecs, il y avait un sens très matériel et géographique. Le nomos, c'est avant d'être la règle, c'était le champ, le territoire dont on prend soin. Et donc, ils refondent l'autonomie, et d'abord un lieu propre où on revient. Et donc, c'est pour ça que finalement, tout leur discours politique, ils s'assoient, ils s'appuient vraiment sur le lieu. Un lieu qui retrouve aussi une capacité à faire signe, une parole, une puissance d'agir.
Vous dites aussi que beaucoup d'entre eux ont une méfiance vis-à-vis des savoirs théoriques, une défiance généralisée pour le monde du discours. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, au fond? Est-ce que ça se rapproche d'une méfiance généralisée pour la science, les savoirs et pour même la compréhension du réchauffement climatique et de ce que l'on vit aujourd'hui?
Non, je pense que c'est encore une fois c'est lié au pragmatisme dont je parlais tout à l'heure. C'est presque comme si ils voulaient laisser leurs actions et les lieux et tout ce monde vivant auquel ils essayent de se retisser parler pour eux-mêmes. C'est un peu l'idée de décentrer l'action et la décision politique et le récit de l'humain, trop humain. Donc on a des lieux dans leur discours qui redeviennent personnages, des êtres vivants qui redeviennent des êtres sociaux. Et donc on a une compréhension de la politique qui est plus tellement la police mais qui est l'oïkos, mais un oïkos élargi, un oïkos qui est une communauté élargie de paroles et d'actions non humaines.
Nathanaël Vallonneros, qu'est-ce que ça vous évoque, ces démarches justement entièrement tournées vers l'action, méfiantes à l'égard peut-être des savoirs, d'une forme de culture, vous le dites aussi, et en tout cas des savoirs scientifiques?
Ça m'évoque plusieurs choses. Donc, en tout cas, je trouve ce que vous dites absolument passionnant. Et puis, cet enjeu de vivre en symbiose avec le vivant est vraiment un enjeu politique du temps présent. Là, on l'entend avec des situations qui ont peut-être une forme de radicalité ou portées par un choix de vie particulièrement conséquent. Mais en tout cas, c'est l'enjeu de nos villes, c'est l'enjeu de nos campagnes, c'est notre enjeu, cette vie en symbiose avec le vivant. Et ce que ça m'évoque aussi, ça me fait penser tout particulièrement à l'ampleur du rôle et de la fonction des éducateurs aujourd'hui. Et je pense que à la fois il nous revient de fait de penser, de penser le monde, de le comprendre en lien avec des savoirs. Je vais y revenir justement sur cette question des savoirs scientifiques. D'agir, c'est une toute autre chose, et puis de rêver. Et en fait, dans ce que vous dites, on entend, on est aussi porté par la dimension poétique, mais poétique très existentielle, en fait, qui amène une forme d'utopie, de rêve, d'espérance, de quelque chose est possible, en tout cas. Et puis on entend, enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends, et peut-être maladroitement, j'en sais rien, mais en tout cas, des personnes qui agissent en lien, en référence à une utopie, une espérance.
Et en tant que chercheur, en tant que scientifique, ça vous inquiète pas, justement, cette méfiance
Non, c'est pas ça qui m'inquiète, c'est plutôt l'ampleur du dérèglement bioclimatique qui m'inquiète de fait. Moi, ce que j'identifie, c'est qu'on a peur des savoirs. J'identifie de la part de nos élites politiques l'ampleur de la crainte à l'égard des savoirs scientifiques. Parce que De fait, enfin, en tout cas, moi, je peux dire, à un moment donné, j'étais pris dans un trouble. Je savais plus démêler la science de la politique. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai lu que des articles scientifiques parus dans les revues à comité de lecture. J'en ai lu au moins un gros millier en un an. Ça a généré sûrement une déflagration. Mais vraiment, mon regard habituellement optimiste, positif sur le monde et la vie a été vraiment complètement enterré à ce moment-là. Voilà. Et après, à partir de là, il y a quelque chose qui est revenu, je dirais, d'un élan, d'une capacité à regarder devant, etc. Et moi, si j'avais un cancer, j'aimerais le savoir, tout simplement. Donc, je pense qu'on n'a pas à avoir peur des savoirs. Et d'ailleurs, l'origine étymologique de savoir, c'est sapérer, c'est la même que saveur. Il y a aussi de la saveur dans les savoirs, quand bien même ceux-ci seront particulièrement anxiogène. Et de fait, pourquoi on a peur des savoirs et au niveau politique, on craint à un moment donné un débordement d'éco-anxiété, etc., en disant mais nos jeunes vont être complètement troublés. Ben, oui, de fait, si on balance des savoirs n'importe comment, à n'importe quel âge, etc., ben oui, de fait, c'est destructeur. C'est à nous de gérer l'inquiétude, à nous comme adultes, j'entends, dans une posture d'éducateur, de gérer l'inquiétude générée par ces savoirs. Et à partir de là, de se dire mais qu'est-ce qu'on transmet ? À partir de quel âge, dans quel contexte, etc. Et pour pallier à l'éco-anxiété, il y a une chose qui est toute simple, et on l'entend de façon toute particulière, mais c'est agir. À partir du moment où on agit avec d'autres, ben, de fait, il y a une inquiétude qui diminue. Et un des lieux d'action privilégiés, c'est l'action politique, il me semble. En tout cas, c'est une conviction chez moi. Eh ben, il me semble que une réponse très nette à l'éco-anxiété, ce serait tout simplement de baisser l'âge des députés, voilà, qui sont particulièrement âgés, dont la moyenne d'âge ne cesse d'augmenter. Et peut-être il faudrait qu'il y ait un âge maximal.
Quand vous dites l'action politique, c'est l'action politique au sein du système
législatif, enfin, et tout particulièrement, voilà, tout à fait. Et je pense qu'une mesure très forte pourrait être justement diminuer l'âge légal des députés pour amener d'emblée davantage de jeunes et diminuer de cette façon aussi l'éco-anxiété dans une population.
Clara Breton, vous mettez-vous en forme, en lumière plutôt d'autres formes d'action, d'autres modes de vie tournés vers l'action? Est-ce que vous diriez que ce sont des actions politiques?
Alors je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, il n'y a pas une méfiance vis-à-vis des savoirs scientifiques. Je dirais qu'il y a une méfiance vis-à-vis du langage adopté dans lequel s'exprime aujourd'hui ces savoirs scientifiques. Et donc une tentative de renouvellement de ce langage, dans le langage par l'action, le langage par les signes. Un signe poétique. Et puis aussi, parce qu'ils prennent acte de la catastrophe écologique, ces gens-là. Donc, c'est pas une méfiance, c'est qu'ils réélargissent le domaine des savoirs, la qualité des savoirs. Ils veulent qu'on redonne droit de cité à des savoirs situés, à des savoirs vernaculaires, à des savoirs incarnés, somatiques.
Pensez à quoi, par exemple ?
Du quotidien.
Vous pensez à quoi comme savoir vernaculaire ancré, comme savoir qu'ils mettraient eux en avant et en lumière?
Oui, bah c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement on a parlé d'utopie là. Moi, je pense que c'est une démarche très réaliste et c'est aussi une démarche qui, en fait, n'est pas du tout nouvelle ou anecdotique ou marginale ou excentrique, parce que leur savoir vernaculaire, ils reviennent en fait à, si on élargit un peu la focale, si on revient dans un temps profond, ils reviennent à ce qu'était la norme, le fondement de notre société, y compris aujourd'hui en France, y compris ici en France. Jusqu'à pas si longtemps, nos économies, elles étaient locales, nos sociétés, elles étaient rurales, paysannes. En 1845, il y avait 75% des Français qui étaient paysans. Nos cultures, elles étaient vernaculaires, elles s'élaboraient au contact direct du monde vivant. Donc en fait, ils reviennent à une histoire qu'on a oubliée ou qu'on a voulu enfouir, invisibiliser. Et ils font réémerger un récit national, et ils permettent de faire infléchir et de revisiter le récit national. On s'est construit un récit de nation de cartésiens, de rationalistes, mais en fait ça s'est fait au détriment de l'occultation, de l'enfouissement, de la discréditation de toutes ces cultures vernaculaires qui étaient en fait les cultures populaires françaises. Voilà, donc c'est ça que je trouvais important de souligner.
Nathanaël Valnehorst, on parle depuis quelques minutes de ces gens qui se sont élancés dans un mode de vie peut-être alternatif, en tout cas autonome. Comment est-ce qu'on fait, en revanche, pour faire accepter des mesures contraignantes d'un point de vue social, souvent écologique, à des gens qui ont peut-être moins envie de s'élancer dans ce type de mode de vie? Quel récit faut-il adopter pour les convaincre?
Alors, si j'étais ministre de l'écologie,
allons-y.
La transition écologique, je ferais une chose. Je rassurerai tous les lobbyistes le jour de ma nomination en leur disant « Rassurez-vous, je ne prendrai aucune décision cette année. » Et puis, je m'installerai sur le perron de l'Élysée ou à Matignon et tous les mardis soirs, la veille du Conseil des ministres, je présenterai des articles scientifiques, je présenterai des scientifiques qui travaillent sur telle et telle chose, etc. en présentant autant des climatologues que des sociologues, que des politistes, etc. Pour, à un moment donné, permettre à chacun nous mettre d'accord sur les faits. Et ça, c'est vraiment Hannah Arendt qui le montre de façon particulièrement éclairante. Lorsqu'on n'arrive plus à se mettre d'accord sur les faits, eh ben, le danger est grand de sortir du giron démocratique.
On a quand même l'impression que le diagnostic aujourd'hui, il est largement partagé.
Le diagnostic est partagé, mais... En fin de lycée, on maîtrise la liste des verbes irréguliers à la perfection, mais on n'est pas capable de faire un état des lieux du système Terre. Voilà. Donc, il y a de fait des savoirs qui font défaut aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que savoir est suffisant pour agir. Bien sûr, ça n'enlève pas l'ensemble des luttes, etc., qui sont nécessaires en lien avec les positions de chacun dans l'espace social. Hein, ça, bien sûr. Mais il me semble qu'à cet endroit, il nous reste encore une marche à franchir qui est conséquente. Un exemple tout simple. On a des rapports du GIEC qui sont vraiment exceptionnels, des résumés à l'intention des décideurs qui font à peu près 120 pages, si on compte les trois du dernier volet, c'est en anglais. On n'a personne qui nous a traduit ça en français, ni un pédagogue qui est passé par là pour le distribuer à un moment donné à tous les lycéens ou collégiens de France. Voilà, il nous reste encore beaucoup de choses à faire.
Clara Breton, en quelques mots, les gens que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils vous ont paru optimistes ou est-ce qu'ils vous ont rendu optimiste?
Bon, alors qu'est-ce qui disait que l'optimisme, le pessimisme de la raison n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Mmh. Moi, ils m'ont rassuré parce que on parlait d'expérience sensible. En allant vivre dans ces lieux, on acquiert voilà des savoirs du corps, on apprend à changer de corps en fait. On n'est pas, c'est pas vraiment une approche de petits gestes. On change soi-même de corps, l'habitat change de corps, le territoire change de corps. Donc on s'habitue à ça, on a moins peur, on n'a plus l'impression de sauter dans l'inconnu si on sort de la société industrielle. On n'a plus l'impression de revenir à la bougie, on a plutôt l'impression qu'on réacquiert la maîtrise de ses besoins vitaux. Qu'on réacquiert aussi un vrai sens de l'efficacité de l'action politique, un vrai pouvoir politique parce qu'on maîtrise ses besoins vitaux et une vraie culture, une vraie sensation de ce qu'est une culture vivante, vivace. Donc ça, évidemment que c'est roboratif.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Nathanaël Vallenhorst et Clara Breton, d'être venus débattre et discuter dans cette nouvelle matinale du samedi. Et maintenant, 7h-9h, je rappelle le titre de vos ouvrages, tous les deux publiés chez Actes Sud. Le premier, Qui sauvera la planète, de Nathanaël Vallenhorst, et Les vies autonomes, une enquête poétique, de Clara Breton.